Ça va mieux.
Jean-François Mignard.
Jacques Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui avec Jean-François Mignard, on va essayer de commenter trois actualités. Le gouvernement Barnier et sa première épreuve, le budget. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des épreuves dans les épreuves, donc c'est très compliqué.
C'est particulièrement éprouvant, la période est éprouvante.
Surtout pour lui, mais pour nous aussi. On dira un mot de ce projet que je ne qualifierai pas, j'attendrai d'y arriver. La LGV Paris-Bordeaux-Toulouse ou Toulouse-Bordeaux-Paris, je ne sais pas comment on le prend. Et puis bien sûr, on parlera de la guerre au Proche-Orient que l'on ne peut pas éviter. Voilà, c'est ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Et comme d'habitude, on respecte toujours le plan.
Les traditions.
Voilà, les traditions, la citation. Rien ne dure et pourtant rien ne passe, et rien ne passe parce que justement rien ne dure. Un silence dans le studio, Langocha, non, c'est Philippe Roth.
Ah, d'accord. Hein, le regretté Philippe Roth.
Le regretté, oui, parce que franchement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir dans ses livres, je n'ai pas encore tout lu, donc j'ai du plaisir réserve.
Il y a de quoi lire, il y a de quoi lire.
Il y a de quoi lire. Quelques chiffres que j'ai extraits de la publication quotidienne de TTSO, notamment sur l'industrie automobile européenne. Alors en 4 ans, nous dit TTSO, le marché européen a dévissé de 30%, passant de 15 millions de véhicules à 10 millions. Alors je ne sais pas, oui, on parle en millions. Mais parallèlement, les capacités de production du continent n'ont baissé que de 4%. Donc ça veut dire qu'il va falloir ajuster. Et quand on dit qu'on ajuste, réduction des cadences, chômage partiel, abandon de lignes. Enfin bon. Et puis peut-être un jour fermeture d'usines, ce qui est toujours très traumatisant. Les lignes de production européennes tournent à présent à 67% de leur capacité, même 63% en France. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à une saignée, puisqu'on sait que le social est toujours la variable d'ajustement.
On a vu ça avec la sidérurgie.
Et tant d'autres avant, les mines. Voilà. Et tant d'autres avant, peut-être bientôt le médicament. Avec,
qui sait
certaines doliprane, voilà. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que tout le monde s'émeut qu'on vende doliprane. Bon, on peut vendre doliprane si on le vendait à quelqu'un qui fabrique des médicaments. Mais là, on le vend à quelqu'un qui est...
Un fonds de pension anglo-saxon, à la surprise générale.
Qui est donc là pour faire de la plus-value et pour revendre tout ça en ayant bien pressé le citron. C'est surtout de ça qu'il faudrait parler. Mais bon, attendons, nous verrons bien ce qui se passe. Et puis pour revenir au sujet que j'évoquais avec mes chiffres, eh bien, je crois que c'est le salon de l'auto bientôt.
Oui.
Il faut en profiter.
C'est encore un signe d'un vieux monde qui est en train de craquer. Voilà.
Oui, qui craque, mais qui quand même résiste. Hein, depuis qu'il entend craquer.
C'est vrai, mais il me semble, je ne suis pas un économiste, mais c'est tout sauf un scoop. Le fait que la question des déplacements, des voitures, tout ça, la sonnette d'alarme est agitée depuis un moment et on a une impression quand même qu'il y a une espèce de viscosité, d'inertie qui fait que on attend la catastrophe sociale, y compris pour en tirer des conséquences.
Oui, on est d'une passivité coupable. Alors, premier sujet que nous avons mis à l'ordre du jour, le gouvernement Barnier et sa première épreuve, ce budget qui est la grande affaire, son élaboration de cette fin d'année, puis avec une double contrainte. D'abord, le déficit du pays s'accroît dans des proportions inquiétantes, ce qui n'est plus supportable à terme. Et Bruxelles a déclenché à l'encontre de la France une procédure d'endettement excessif. C'est pas nouveau, ça fait un demi-siècle que l'État n'arrive pas à équilibrer son budget, mais il faut bien le reconnaître, les 7 ans de politique économique d'Emmanuel Macron ont considérablement aggravé la situation. Jugez-en, 3228 milliards de dettes, ce qui nous représente 112% de notre PIB, alors que les règles européennes en prévoyaient au maximum 60, bon, il y a longtemps qu'on n'en parle plus,
oui.
52 milliards d'euros d'intérêts à régler en 2024, ce qui fait quand même 12% de notre budget, et c'est même le deuxième poste du budget. Nous empruntons à des taux de plus en plus élevés, avec à présent une inflation réduite, ce qui en renchérit le coût. Durant cette année, le déficit risque bien de dépasser les 6% du produit. Quand je dis risque bien, c'est une façon de parler, puisqu'on sait que c'est le cas. Les 6% du produit intérieur brut, et dans le même temps, la France est le seul pays d'Europe à avoir vu son taux de pauvreté augmenter entre 2015 et 2023, ce qui signifie que l'avenir est tout, mais pas rassurant. Un tiers des Français aura plus de 65 ans en 2070. Les dépenses publiques, nous on n'a pas attendu hein, quand même, hein,
non,
on a devancé l'appel. Les dépenses publiques liées aux retraites et à la santé vont croître de façon exponentielle, c'est évident, et la démocratie peut-être aussi, mais pardon de ce lapsus, la démographie marque le pas. Et que dire des besoins de financement d'une transition écologique indispensable aujourd'hui à la survie de nos civilisations. Alors il ne faut pas confondre dette et déficit, vous le savez, le déficit c'est le produit de l'écart, enfin quand je dis produit entre guillemets, de l'écart entre recettes et dépenses, qui va représenter 6 points de PIB cette année, et l'on a nettement le sentiment d'une perte de contrôle de celui-ci, de quoi inquiéter les marchés financiers, ces fameux organismes de notation avec les conséquences que l'on devine. Pourtant, les dépenses publiques n'ont pas bougé depuis 2017, elles seraient même un peu moindres. Alors d'où vient l'accroissement de ce déficit structurel ? Ben, d'une part, des mauvaises performances économiques dues à la conjoncture, leur rendement de l'impôt a été moins bon que prévu. D'autre part, et surtout, du fait que depuis 7 ans, Emmanuel Macron a baissé les recettes dans d'importantes proportions. Alors, il a touché l'impôt sur les sociétés, les impôts de production, la taxe d'habitation, l'impôt sur la fortune, la flat tax, pour ne parler que d'eux, qui ont été ou supprimés ou qui ont vu leur taux abaisser. Donc, en résultat de cette opération surprenante, ou pas d'ailleurs, environ 50 à 60 milliards en moins dans les caisses de l'État, alors que celui-ci cherche quelque chose comme 110 milliards pour équilibrer son budget, et qu'on nous dit que cette année, nous allons essayer d'économiser ou de faire rentrer 60 milliards. Monsieur Macron a vidé les caisses avec sa politique de l'offre et sa fumeuse théorie du ruissellement qui n'a jamais marché, ça on le savait depuis toujours. Hein.
C'est pas sa théorie, c'est un adepte militant de cette théorie-là qu'on nous sert quand même depuis un moment.
Mais que l'on n'a jamais vu fonctionner, il faut bien dire.
Non, c'est une théorie théorique.
Alors si, ça a fonctionné au profit de certains qui n'en avaient nul besoin et notre pays creuse l'écart par rapport aux autres.
Des fois ça ruisselle vers le haut,
européen. Oui, ça ruisselle, mais c'est très curieux l'eau a un cheminement très curieux. Notamment, on creuse l'écart par rapport à nos amis européens qui, pour certains, parviennent à dégager des marges. Nos besoins sont partout criants, pourtant le gouvernement va mettre le pays à la diète et éventuellement proposer quelques hausses d'impôts à la marge. Le remède risque d'être de peu d'efficacité, surtout avec une économie et des gains de productivité à tonnes, parce que si on veut avoir de la marge, eh bien, il faut dégager des gains de productivité. Nous avons un pays sans réelle majorité, un Premier ministre en sursis et sans légitimité politique qui essaye de diriger comme il peut sous la pression d'une extrême droite en embuscade et qui lui fait même du chantage. Bon courage à lui. Piètre bilan après 7 ans de règne. Monsieur Macron nous a habitués à des échecs répétés. Ça, on a compris que c'était un loser superbe. Beaucoup ont ponctué cette présidence. Elle ne restera pas dans les mémoires, si ce n'est peut-être comme contre-exemple. Par contre, cet énième Un succès, nous coûte très cher et plombe encore une fois une France qui n'avait nul besoin de ce nouvel avatar macronien. Alors j'ai un peu envie de dire, ou plutôt Macron pourrait s'écrier, vous savez, le caporal Diaz, ça vous rappelle des choses, Jean-François, dans l'oreille cassée, encore raté. Voilà, donc sur ce point-là, ben après il faudra que nous parlions quand même un peu aussi de politique plus générale, que nous parlions peut-être de ces fameuses lois immigration et des positions de l'abbé Retailleau, mais parlons du budget. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le réquisitoire est sévère, mais informé, comme d'habitude. Je pense que c'est assez partagé, hein, l'impression d'une gueule de bois politique après des années de supercherie. À l'heure où on parle, il va y avoir une commission parlementaire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
À partir du moment où vous baissez les recettes.
Oui, voilà.
Alors, nécessairement.
Mais on a du mal quand même. J'ai du mal, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, à comprendre, à réaliser que ces choses-là aient pu arriver sans qu'on les ait vues venir, sans qu'il y ait eu des alertes, et sans qu'il y ait eu une volonté politique pour aborder le problème. C'est en ce sens-là que je dis, on a quand même l'impression que tout ça n'est qu'une... C'est le gouvernement Macron, le président de la République, nous présente une facture avec un nouveau gouvernement de quelque chose qui a été réalisé, qui a été longuement creusé dans les années qui sont les années précédentes. Voilà. Et avec une... Alors, on est dans une difficulté politique et on est dans une situation quasi impasse politique. Puisque il faudrait revenir certainement sur ce qui nous a mené là et certainement les remèdes qui sont qu'on pourrait y amener qui sont certainement pas à la mesure de ceux qui nous sont présentés. Qui sont quand même un petit peu, on va dire, on est dans une espèce de, tel qu'il est présenté, ce budget. On a l'impression de briser des tabous absolument fantastiques, c'est-à-dire qu'on va à nouveau augmenter les impôts, à la marge sur un certain nombre de gens qui ont de l'argent, on va le dire comme ça, pas que du revenu, mais de la richesse. Hein, et pour le coup, on va, en même temps, c'est très macronien, qu'elle esbrouffe, taper sur les services publics. Alors on voit, hein, on ne va pas encore en mesurer les effets, mais quand on voit la purge prévue au niveau de l'éducation nationale, quand on voit...
Alors justement, tiens, un mot sur l'éducation nationale, Jean-François, on va supprimer des postes,
oui.
Mais on sait aussi que la démographie s'écroulant, on a peut-être moins de besoins dans certains endroits et dans certains postes.
Alors, il s'agit certainement, il y aurait certainement des choses à faire au niveau de l'éducation nationale, mais il faudrait aller voir aujourd'hui la situation d'un service public qui est quasiment sinistré. Je veux dire, l'éducation nationale aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez autour de vous, dans vos entourages, des enseignants ou des gens qui pratiquent au quotidien cette chose-là. On est là aussi dans une impasse, un service dans lequel il y a de moins en moins de gens qui souhaitent travailler là-dedans, et où on a une crise au-delà de la crise de vocation, qui est une crise quasiment idéologique au niveau de la mission de service public d'éducation. Et il y aurait certainement, et c'est là je pense où on est dans une situation très compliquée, c'est qu'il y aurait certainement, et il y a lieu certainement de revoir de manière approfondie un certain nombre de choses, avec toutes les difficultés que ça représente. Hein, c'est-à-dire, y compris du côté des enseignants, alors on pourrait dire la même chose du côté des agriculteurs et tout, sauf que pour ça, il faut avoir un crédit politique, et qu'on a aujourd'hui un président de la République politiquement démonétisé, et on a un gouvernement qui est un gouvernement...
En sursis.
En sursis, et dont on a l'impression, dont moi j'ai l'impression, encore une fois, je souhaite pas parler à la place de tout le monde, mais qu'il est lui-même le produit de jeux de bonneteau politique, de palidonie, de combine, de la même manière que on nous a gérer économiquement le pays. Autrement dit, là aussi, on est dans une impasse. Si on veut modifier... Je reviens très rapidement sur la fameuse transition énergétique qui nécessiterait là aussi d'avoir quelque chose de l'ordre de perspective et d'une confiance dans une prise de risque collective, ce qui n'est pas du tout le cas.
Il faut planifier. Aujourd'hui, on ne peut pas tous les 6 mois changer le fusil d'épaule, dire on va faire ceci, on va faire cela. Il faudrait déjà un bon audit. Où faut-il toucher ? Parce que dire on va réduire les dépenses des services publics, et par ailleurs, beaucoup de Français disent mais les services publics ne marchent pas ou marchent mal et ne rendent pas les services qu'on est en droit d'attendre.
Peut-être
dire qu'est-ce qui ne va pas où est-ce qu'il faut toucher avant de sabrer sauvagement et aveuglement.
Mais pour ça, il faudrait avoir, je pense, une pratique politique extrêmement différente de celle qui a été mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on ouvre des débats dans lesquels il y ait du dialogue qui se fasse à tous les étages du pays, notamment avec la société civile, les syndicats. Et on a une gouvernance, on va dire, qui est une gouvernance qui n'est pas du tout de ce style-là et qui a même réussi... qui a même réussi à décrédibiliser ce que pourraient être des débats, qui sont des débats publics. Il faut avoir un peu de mémoire. On se fait tellement enfumer qu'on en arrive à oublier un certain nombre de choses. Mais rappelons-nous la crise des Gilets jaunes, hein, la crise des Gilets jaunes et la sortie politique comme... bricolé par Macron.
La sortie politique, c'est la sortie du chéquier chaque fois.
Oui, alors il y a un truc.
Bien sûr.
Ou alors on en fume. Il se trouve qu'en ce moment, on est en train de replonger dans les fameux cahiers de doléances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la sortie des Gilets jaunes, où il y avait un grand débat public, on a demandé aux gens de s'exprimer. Et où, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça, hein, je veux dire, ça devait être, je parle de gouvernance politique pour le coup, ça devait être quelque chose qui devait permettre, vous savez, de sortir du monde d'hier pour arriver dans le monde de demain. Comme on nous a sorti qu'à la sortie du Covid, hein, ce serait définitivement plus comme avant, ce serait complètement différent. Alors, c'est de l'esbrouffe, et c'est en ça que ça décrédibilise aujourd'hui, et que le roi est nu, de ce point de vue-là, politiquement, me semble-t-il. Mais ça vaut le coup d'aller voir. Moi, je suis allé voir. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de voir exhumer un certain nombre de choses comme ça. Les gens ne sont pas stupides. Ce qui s'était dit à cette époque-là... Alors, il y avait bien entendu l'écume des choses. Hein, il y a toujours le bouc émissaire qui est celui qui se gave pendant que nous, on est à l'agonie. Mais on est aussi dans un pays dans lequel il y a une volonté de faire des choses, de prendre les choses en main. Et face de ça, on a un gouvernement, un président de la République qui est complètement en fin de course, des partis politiques et un personnel politique qui n'est pas à la hauteur
qui sont en fin de course aussi.
Voilà.
Aucune crédibilité aujourd'hui. Aucune.
Oui. Et au-delà de la dimension personnelle des uns et des autres, ce qui est en train de se jouer, effectivement, c'est comme on n'arrive pas à mettre en forme les débats de manière politique, ce qui monte, me semble-t-il, dans le pays, c'est quelque chose de l'ordre de la colère, du dépit. Je fais du Pierre Larrouille là-dessus, du dépit, du refus de l'ouverture, la haine de l'autre et tout. On a commencé à le payer politiquement, et je crains qu'on ne le paye politiquement dans les mois qui viennent avec une extrême droite à l'embuscade.
Voilà. Une extrême droite à l'embuscade et beaucoup de gens qui ne vont plus au bureau de vote puisqu'ils se demandent à quoi ça sert aujourd'hui.
Très compliqué parce que on a l'impression, y compris, c'est étonnant, je trouve, que on en arrive à avoir une espèce de, de, de mémoire tampon qui est quasiment fugace, c'est-à-dire qu'on oublie. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une mobilisation à l'échelle du pays relativement importante pour éviter l'arrivée du Rassemblement national. Et une fois la grande trouille passée, on a l'impression que les vieilles habitudes reviennent au niveau politique et qu'on est reparti dans du casting et dans de la...
Il y a quand même quelque chose de choquant, c'est que le Front National, il représente à peu près un tiers des voix.
Des gens qui s'expriment.
Le tiers des gens qui s'expriment. Alors, on sait ici que nous ne portons pas le Front National au nu, c'est un euphémisme, mais... Pour autant, on ne peut que constater que ce tiers des voix n'est représenté nulle part, puisque tout est fait pour essayer de l'écarter.
Ah oui, mais aujourd'hui, il est représenté. Je pense qu'aujourd'hui, objectivement, il est représenté. C'est-à-dire quand on voit, et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, quand on voit la manière dont il pèse indirectement sur des décisions qui sont des décisions politiques.
Et aujourd'hui, il suffit que, il s'allie... à la gauche, et le gouvernement Barnier, voilà, n'éclat.
Bien entendu, et le budget sera le Rassemblement national va acheter une partie de ses voix sur le budget, et avec le fait qu'on a une loi immigration en début 2025, qui est quelque chose qu'il appelle de ses voeux depuis des années.
Alors, on va en parler de ça, mais bon, ce qui va vraisemblablement se passer, c'est qu'à l'Assemblée, le budget, ça va très mal se dérouler.
Ah, ça démarre très mal, déjà.
Que nous allons partir au Sénat, qui est beaucoup plus favorable, parce que beaucoup plus à droite au gouvernement. Il y a quand même pas mal de sénateurs, d'ex-sénateurs dans ce gouvernement.
Oui.
Que là, on va voter ce budget, qu'on va revenir en commission paritaire entre l'Assemblée et le Sénat, et que ça va se régler en commission paritaire.
Oui.
Donc,
oui,
ce qui permettra peut-être d'éviter des débats à l'infini. Et puis derrière, il y a toujours le 49-3.
Voilà. Et il y aura le 49-3 à la clé, ce qui va, de mon point de vue, je pense que je ne suis pas le seul, continuer à aggraver la crise politique dans laquelle on est.
On est quand même toujours dans le respect de la Constitution. N'oublions pas qu'à l'époque, Michel Rocard a beaucoup usé, voire abusé
du 49-3, mais l'époque n'est plus la même. On est à la frange du légal et du légitime, c'est-à-dire que ce qui est légal peut-être commence à être considéré comme relativement illégitime. Et là, c'est une crise politique vraiment de fond.
Peut-être faut-il venir à la proportionnelle pure et simple, et à ce moment-là, des majorités se dégageront.
Oui, mais je pense qu'on est, le mal est peut-être encore plus profond, mais j'ai pas de solution. C'est pas trop ma tasse de thé de jouer les Cassandres, mais je pense que le mal est encore plus profond. C'est-à-dire que faut vraiment rebattre les cartes du système politique, parce que encore une fois, on est confronté à une crise idéologique, à une crise institutionnelle, et y compris à une crise des modes d'action, des pratiques qui sont des pratiques politiques. Le débat n'est plus porté dans le cadre des partis politiques, qui ne sont que des écuries pour faire élire un certain nombre de gens, de manière dominante, et il n'y a plus d'espace dans lequel il puisse y avoir un débat qui est un débat qui permette de prendre des orientations suffisamment clairement et suffisamment démocratiquement pour qu'elle soit endossée par les gens.
Alors après, ce qui est inquiétant, et vous avez prononcé le mot, c'est cette fameuse future loi immigration. Bon, on sait que la loi immigration qui a été votée en janvier...
Oui, l'encre n'est pas encore sèche.
Il y avait 30 décrets d'application, il n'y en a que 8 qui ont été publiés. Donc il y a encore quand même du grain à moudre, et des gens nous disent on va faire une loi immigration. Alors on sent bien que M. Retailleau, qui est plus proche de l'extrême droite que...
C'est la droite, c'est un problème d'ordre des mots entre la droite extrême et l'extrême droite. Voilà,
c'est ça. Et on sait quand même, l'agence Frontex l'a dit, les passages clandestins aux frontières de l'Europe sont en baisse de 42% depuis janvier.
Oui.
Donc avec trois pays surreprésentés, c'est la Syrie, le Mali et l'Ukraine. Bon, l'Ukraine, on les a fort bien accueillis, les autres un peu moins, parce qu'ils n'avaient pas la même couleur.
Les Ukrainiens, ça commence à finir, là. Hélas pour eux, mais les mesures qui étaient des mesures européennes transitoires arrivent en bout de course. Autrement dit, si l'Union européenne ne décide pas de proroger le dispositif qui a permis d'accueillir dignement les Ukrainiens comme on devrait accueillir dignement les gens qui se réfugient chez nous, les Ukrainiens vont être logés à la même enseigne. Et ce qui se passe, me semble-t-il, aujourd'hui en Ukraine, quand on voit la façon dont son président s'agite, laisse à penser que l'Europe n'est pas prête à trop aller loin du côté des Ukrainiens. Voilà.
Oui, malheureusement pour eux. Alors qu'est-ce qu'il veut faire Retailleau ? Il a dit « je promets ne pas aller au-delà de ce qui a été voté en 2023 », ce qui veut dire qu'il veut refaire passer les dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vont faire les macronistes qui étaient opposés déjà au texte à l'époque ? Nous allons voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'urgence est ailleurs. Et puis, il va bien. Madame Meloni, qui n'est quand même pas d'extrême gauche, hein, qui n'a pas le couteau entre les dents, est en train de régulariser 500 000 personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le problème démographique italien est de plus en plus important. La France va se retrouver bientôt dans la même situation. On nous dit qu'il faut récupérer notre indépendance. Nous allons faire revenir des usines. Qui c'est qu'on va mettre pour travailler dans les usines ? Nous n'avons personne.
D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la ministre du Travail qui a expliqué que ce n'était pas aussi simple que ce qu'annonçait son collègue de l'intérieur. Parce qu'effectivement, on est confronté à cette question-là en France. Moins qu'en Italie, mais quand même.
Ça devient pourtant, en Allemagne. À l'époque, madame la première ministre allemande l'avait très bien compris. Quand
madame
elle a,
Merkel.
Madame Merkel, ça lui a coûté très cher politiquement. Oui. Mais enfin, elle avait fait rentrer quasiment 1 million d'émigrés. Elle savait pourquoi. Les Allemands font encore moins d'enfants que nous. Oui. On n'est pas trop mal, nous, mais là, on sent quand même qu'on va vers une grosse crise démographique. Et il va falloir que nous travaillions. Si on veut avoir des marges financières, économiquement parlant, si on veut avoir de la productivité, ben il faut travailler. Il faut trouver des gens.
Oui, mais je pense, bien sûr, il y a cette dimension-là, mais à côté de cette dimension-là même, il y a l'idée de, contrairement à ce qui est dit, annoncé, seriné à la télé, mainstream, comme on dit, l'immigration est une richesse. Ça a été, dire tous les gens qui travaillent là-dessus de manière entre guillemets scientifique. Quand je dis entre guillemets, c'est pour euphémiser un petit peu, mais les sciences humaines, c'est quand même aussi des sciences. C'est démontre effectivement que nous avons besoin d'une immigration, mais pas uniquement sur la question qui est la question du travail. Mais je pense qu'il y a une autre question aussi qui est posée autour de ça. C'est qu'au-delà du besoin, nous ne ferons pas l'impasse, nous ne resterons pas, ni la France ni l'Europe, en dehors des phénomènes migratoires. Ça n'existe pas.
Il y a toujours eu des migrations.
C'est du fantasme, C'est du fantasme.
Et une immigration qui va être vraisemblablement accélérée dans des proportions colossales avec la mutation climatique, les mutations climatiques, avec des endroits, des pays qui deviennent complètement invivables.
Oui, y compris le nôtre. Y compris le nôtre, qui à terme peut aussi être touché par ce genre de choses-là. Alors, et c'est là où je pense qu'on est en train de creuser un petit peu notre propre avenir sombre, c'est que ces choses-là, il faut les regarder en face. Je veux dire, le discours qui serait de dire c'est du droit de l'hommisme, c'est de l'angélisme, de considérer qu'il faut avoir une politique migratoire qui ne se limite pas à fermer les frontières pour pouvoir se protéger, mais à imaginer les choses de manière dynamique et prospective, c'est pas du tout de l'angélisme, c'est du réalisme. Le fantasme, il est ailleurs. Et ce qu'il y a de terrible en plus, c'est que c'est devenu une variable d'ajustement politique, la question de l'immigration. On le voit. Alors,
C'est pas en France qu'il y a le plus de tentatives d'immigration.
Hein. Non, alors.
Surtout que c'est en plus des gens qui veulent aller en Angleterre. Nous ne sommes qu'un pays de transit.
Nous ne sommes plus un pays désirable de ce point de vue-là. Quand on discute, il m'arrive assez régulièrement d'être en contact avec des gens qui sont en situation qui sont ici, soit des primo-arrivants, soit des gens qui sont depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans en France, qui sont toujours sans papier, et qui disent on pensait pas que ce pays serait celui qu'on vit au quotidien. Voilà, on n'est pas très désirable, c'est de la connerie basique de l'imaginer que les gens se massent à nos frontières pour venir, si ce n'est manger notre pain, au moins nos allocations familiales. Je veux dire, quand on sait ce que c'est que la réalité des gens qui sont dans une situation de migration, la question des allocations familiales est vraiment le cadet de leurs soucis au regard de ce qu'ils vivent au quotidien chez eux, ou dans les pays d'à côté où ils se rendent, voilà. Et on a sous les yeux aujourd'hui, mais c'est caricatural, hein, cette espèce ce que j'appelle une variable d'ajustement, et où on voit encore une fois, mais c'est pas tant, une extrême droite qui dit nous on votera le budget, qui parle pas d'immigration, pour autant qu'il y ait une loi qui corresponde à nos désirs en 2025. Et un ministre de l'Intérieur qui s'aligne. Je ne sais pas effectivement ce que les derniers macronistes qui ont encore quelque chose de l'ordre d'un peu de colonne vertébrale éthique en penseront.
Ben, nous allons le voir, parce que je pense que c'est un sujet qui nous occupera dans les semaines à venir, et puis peut-être beaucoup plus longtemps que ça, malheureusement.
Oui, on le sait. Alors, ce que je peux dire, parce que je peux témoigner, c'est qu'on sent aujourd'hui, dans les préfectures, quelque chose qui est de l'ordre d'un raidissement concernant les conditions de vie des gens qui sont en situation d'accueil en France, accueillis en France, hein, et qu'on est en train de martyriser des gens... pour des raisons qui sont des raisons bassement politiciennes, ça va devenir insupportable. On ne fait pas que... je pense, entre guillemets, qu'on perd aussi de notre conscience et de notre éthique quand on fait ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'on fait aux étrangers dit pas mal de ce qu'on est. Voilà.
Oui, quand on voit ce qu'on fait à la planète, quand on voit ce qu'on fait aux animaux, quand on voit, on se rend compte que l'Homo sapiens dérape déjà depuis très longtemps, on va voir où ça va le mener, même si on peut en avoir une idée. Je vous propose, Jean-François, de passer au deuxième sujet, cette LGV Paris-Bordeaux-Toulouse ou Toulouse-Bordeaux-Paris. Alors là, on avait déjà fait à ce micro une émission sur ce projet de ligne à grande vitesse. Il y avait un représentant de la mairie, il y avait Jean-Michel Latte, qui était pour, et un opposant, le maire de Saint-Jean.
Que vous connaissez,
voilà,
de l'Union.
Qui avait là-dessus développé des thèses tout à fait intéressantes et documentées pour s'y opposer. La région que j'avais contactée n'a pas jugé utile d'être présente. Il faut dire que sa présidente, Madame Delga, a un faible pour les projets inutiles, datés, dispendieux et qui massacrent l'environnement d'une région qu'elle devrait normalement s'attacher à protéger pour le plus grand bénéfice de ceux qui l'habitent.
C'est le nouveau monde.
On le voit avec la 69. Alors c'est curieux de voir cela, et c'est même décevant de voir cette femme politique qui est quand même encore jeune et qui agit comme un vieux briscard de la politique politicienne et qui appartient à un monde qui est déjà très ancien.
Ben, je pense que ça fait partie, au-delà de la personne, encore une fois, moi, qui m'importe relativement peu, ça fait partie de la crise politique dans laquelle on est. C'est-à-dire que bon nombre de collectivités comme les régions qui sont en charge du développement économique, ça fait partie des compétences, hein, ont un logiciel pour penser cette affaire-là, hein, puisqu'encore une fois, dans le cadre en 83, on a dit bon, le développement économique et l'aménagement du territoire, ça va être la région. Et ce, sur un logiciel qui est un logiciel qui effectivement date et qui aujourd'hui et qui est soumis, et ces collectivités territoriales, on le voit parce que nous, on est... Alors quand je dis « nous », c'est la Ligue des droits de l'homme, on est en train de travailler sur une commission d'enquête, on va en rendre les rapports dans 15 jours, 3 semaines, où on a passé au crible une vingtaine de grands projets. En gros, on a regardé, On a regardé de près alors, des grands projets qui sont en cours, des grands projets qui ont été avortés. Hein, alors, la 69 en cours, mais Val-Tolosa, qui est un grand projet de création d'un grand centre commercial aux portes de Toulouse. La LGV, et où on est allé examiner de près les conditions de production de la décision publique concernant ces projets-là, dans lequel on retrouve effectivement les collectivités territoriales, l'État. Vous savez, les fameuses enquêtes d'utilité publique qui sont bordées par du droit international. Hein, ça se fait pas n'importe comment. Il y a du droit international, il y a un certain nombre de conditions ou de contraintes pour que le débat soit réellement démocratique et tout. Et bon, on aura certainement l'occasion d'en reparler.
Je pense qu'on en parlera ici, très vraisemblablement, parce que ce sera intéressant.
Alors, on a travaillé avec l'université, là aussi, avec des gens qui sont des universitaires, qui travaillent sur cette question-là. Et on voit bien qu'il s'agit, 9 fois sur 10, d'un passage en force.
Oui, surtout sur des projets qui ont été mis sur les rails, sans jeu de mots, sur le sujet qui nous préoccupe depuis 10, 20 ans, 30 ans parfois.
La plupart sont comme ça, parce que c'est des projets énormes qui demandent une planification.
Le monde change à grande vitesse. Alors, pour revenir à l'LGV, qu'est-ce que c'est que ce projet? Ben, y a une journaliste du Monde qui avait été envoyée spéciale, Claire Maillère, qui l'a extrêmement bien résumé. Elle nous dit que le projet de LGV prévoit de relier Paris à Toulouse via Bordeaux en 3h10 contre 4h23 actuellement, pour une mise en service à peu près prévue vers 2032. Donc un chantier qui va nous coûter au minimum, parce qu'on sait quand ça démarre combien ça devrait coûter, mais au final...
Par exemple, la lutte qu'on fait, c'est une variante constante, très faible.
Voilà. 14,3 millions d'euros financés par l'État, les collectivités locales et l'Union européenne. Et on a un garçon que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Olivier, qui est co-président des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, qui est membre de la coordination LGV non merci, qui était d'ailleurs à l'Herme et Musée où se sont réunis un certain nombre d'opposants très récemment, et qui dit, et je le cite, cette LGV entraînera une artificialisation démentielle du territoire, de la bétonisation, des quantités de matériaux que les carriers n'arriveraient même pas à fournir, des atteintes au système aquatique et des forêts pour certaines millénaires fermées, les guillemets. Les associations dénoncent le feu vert qui est donné par la commission d'enquête publique qui a organisé cet été, hein, parce qu'il y a une autorisation environnementale des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. 90% d'avis défavorables quand même, hein, selon les opposants du projet, et comme vous venez de le dire, et c'est cité, une technique de passage en force qui a été dénoncée, notamment par un député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, que je ne connais pas, élu girondin, je pense, et qui nous dit, rien n'est fait, cette magnifique vallée du Ciron n'est pas encore défigurée par les 3 viaducs qui sont programmés, 3 viaducs. Donc il est encore temps de le faire, sinon annuler, en tout cas pour une longue période. Alors, on peut se demander quand même, alors que nous avons un train, on a ce qu'il faut pour aller à Paris. Certes, on passe par Bordeaux. Il y a une ligne TGV Bordeaux-Paris, donc ça roule quand même pas trop mal pour l'avoir pris. On va gagner quoi? On va gagner 1h10 peut-être. Est-ce que l'enjeu n'est pas beaucoup plus important qu'1h10? Qui c'est qui a besoin de gagner 1h10 aujourd'hui, alors qu'il y a quand même le télétravail, qu'il y a beaucoup de conférences et de visioconférences qui permettent de ne pas se déplacer, qu'il y a aussi une ligne d'avion? Vous allez me dire, l'avion pollue, donc c'est pas moi qui devrais dire ça, mais on sait que le train, il est plus cher que l'avion, il est jamais à l'heure quand il démarre.
C'est vrai, mais il est moins subventionné que l'avion quand même. L'avion n'est pas cher parce que le kérosène n'est pas très cher non plus.
Voilà, pour l'instant, le kérosène n'est pas cher. Mais là, on va faire tout ça pour gagner 1 heure de temps aujourd'hui, à l'époque où on est. Ce ravage de la nature pour un coût phénoménal, ça paraît... Alors, j'ai cité Madame Delga tout à l'heure, on n'a pas été gentil, mais j'aurais pu citer Monsieur Vincini aussi, je ne l'ai pas entendu beaucoup sur ce projet, en tout cas, en dire du mal.
Il est plus discret.
Il
n'est pas... C'est pas dans sa compétence, cette question-là. Non, beaucoup moins que celui de la région.
Mais bon, que, par exemple, pour la 69, certains de ses vice-présidents s'interrogeaient à haute voix en disant on devrait s'opposer.
Mais de plus en plus de gens s'interrogent à haute voix Mais c'est l'ancien logiciel qui fonctionne. Incessamment sous peu, on va commémorer les 10 ans de la mort de Rémi Fraisse à Sivens. Hein, c'était il y a 10 ans. J'ai co-animé avec mon ami Pascal Nakache la commission d'enquête sur les conditions qui ont amené la mort de Rémi Fraisse. Pendant 6 mois, on a travaillé, on a rencontré des gens. On n'a jamais réussi à rencontrer les élus, jamais, ni les représentants de l'État. Et vous rappelez Rémi Fraisse, hein, voilà, là aussi grand projet qui a fait pchit, comme disait l'autre. Hein. J'ai relu dernièrement parce que on y retravaillait dessus ce rapport-là et ça m'a remis un petit peu les choses en mémoire. On a exactement le même processus. D'un affrontement non régulé de manière démocratique entre des projets, voire des représentations, pour le coup, du monde. Et ce qu'il y a de terrible, je pense, c'est que j'y serai plus, nous n'y serons plus, Jacques, mais les générations, si elles continuent à prospérer sur la Terre dans une ou deux générations, mesureront l'étendue du gaspillage sinistre que ça peut être.
Je pense que dans deux générations, il n'y aura peut-être plus trop d'Homo sapiens.
Voilà, mais c'est pour ça. Mais quand on regarde, c'est là aussi, on voit la même chose, hein, qui est des groupes de pression, à Sivens, c'est la FNSEA. C'est les mêmes qu'on retrouve. Mais sur la 69, c'est l'industrie pharmaceutique, je ne citerai pas de nom, qui est derrière ce genre de choses-là. Et on a du lobbying très très fort, on a des collectivités publiques qui sont soumises à ces gens-là, et on a des décisions qui sont prises. Et je pense qu'il y a et que par ailleurs, il y a de plus en plus de résistance.
Il y a de plus en plus de résistance, mais il y a toujours cette coupure entre la décision de l'homme ou des femmes politiques qui manifestement ne comprennent pas l'époque dans laquelle on est, qui ne comprennent pas les urgences, qui ne comprennent pas les enjeux, et ça me semble particulièrement grave.
Il y a aujourd'hui, du côté des sciences humaines, tout un travail Parce que c'est quand même incompréhensible. Ces gens-là ne sont pas plus stupides que les autres, ni plus pervers que les autres. Je parle des grands décideurs. Comment se fait-il que ça passe pas ? Comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y ait pas une prise de conscience ? Et là, il y a une... Je lisais un truc dernièrement, et je pense que ça vaudrait le coup peut-être d'en reparler. On passe... Il y a une espèce de mutation entre deux paradigmes, qui est le bien public... C'est l'ancien monde, les enquêtes d'utilité publique, et quelque chose de l'ordre du bien commun. Aujourd'hui, le bien commun, c'est-à-dire ce qu'on... Et c'est le discours de tous les gens, de la plupart des gens qui s'opposent, les Amis de la Terre, les soulèvements, etc., etc. C'est de dire il ne faut plus toucher à quelque chose qui est de l'ordre d'un bien commun et qui concerne tout le monde. Tout le monde, y compris... Sur des perspectives de temps qui ne sont pas du court terme. On est en train de prendre... Et on le voit, c'est long à décider. Et quand on a décidé, c'est sur des générations qu'il y a des effets. Voilà. Comment on passe d'un bien public, donc géré de manière assez traditionnelle, à quelque chose de l'ordre d'une gestion partagée d'un bien commun ?
Il faut peut-être lire Jacques Ellul, il a écrit il y a 70 ans des propos qui sont aujourd'hui d'une pertinence totalement aveuglante, totalement d'actualité.
Oui, tout à fait.
A commencé d'ailleurs par son illusion politique qu'il faudrait relire peut-être.
Et sur la technique, et y compris, et voilà, technique. Je veux dire, on a des gens qui sont à la limite des fois du scientisme. Hein, on entend, même si ça a des effets négatifs, la science nous sauvera.
Voilà. Il paraît que dans le personnel politique qu'on mérite, je trouve quand même qu'on n'est pas brillant, mais on doit pouvoir mériter mieux. Allez, parlons de l'international un peu, allons plus loin, pas si loin que ça, la guerre au Proche-Orient. Netanyahou et ses ministres religieux d'extrême droite, ils ont ravagé la bande de Gaza, tué, on dit 40 000 personnes, bon, un chiffre à valider, à affiner, oui, hommes, femmes, vieillards, enfants, sans distinction.
Mesurer les hauteurs de tas de cadavres, c'est toujours...
C'est toujours un peu délicat. Pour autant, le Hamas n'a pas été éradiqué, certainement affaibli, mais il se reconstituera, n'en doutons pas, le pays est ruiné, maladie, famine se déclare d'un bout à l'autre de celui-ci. On a sauvé aucun otage. On ne les a pas ramenés, ceux qui sont encore détenus et vivants. Aucun journaliste ne peut travailler dans la bande de Gaza. On ne sait pas encore vraiment ce qui s'y passe. La Cisjordanie, pays palestinien, est grignotée, envahie par des colons surarmés et la plupart du temps extrêmes religieux, qui s'approprient des terres qui appartiennent aux populations locales et qui commettent toutes sortes d'exactions. Maintenant, avec Israël s'attaque avec ses méthodes au Liban, il tire sur nos casques bleus. Monsieur Macron, qui dit beaucoup de bêtises, mais pas que, on vient de le voir, il a dit à monsieur Netanyahou, rappelez-vous que c'est quand même l'ONU qui vous a créé, ce qui est historiquement parfaitement incontestable.
Qui est formellement vrai.
Et il a dit également, il suffit d'arrêter de fournir des armes à Israël et ça va se calmer. Ça les a mis en fureur et on comprend pourquoi. Il avait touché juste. Personne ne semble pour autant en mesure d'arrêter cette dérive meurtrière qui n'a aucune finalité politique, puisqu'il n'y a aucun plan ou solution destinée à arrêter ce massacre. Et vraisemblablement, le gouvernement israélien n'en veut pas de solution politique. Une guerre aveugle, faite de prédations, d'exactions inacceptables, tout sous les yeux d'une Europe impuissante, d'États-Unis peut-être aussi impuissants et en pleine période électorale qui s'y empêtre de plus en plus. Et si Trump arrive de nouveau au pouvoir, ça pourrait être pire. Netanyahou, finalement, se comporte comme Poutine. C'est un Poutine occidental, si je puis dire. Je ne sais pas, c'est peut-être exagéré, j'en sais rien. Mais la solution pour lui, c'est la fuite en avant et la guerre interminable, si possible. Puisqu'on sait qu'il y a quand même les juges israéliens l'attendent avec gourmandise. Donc, tant qu'il y aura guerre, il se sauve.
Il est en sursis politique.
Il est en sursis politique. Donc, où va-t-on dans cette région? On sait qu'il y a l'Iran, mais enfin, l'Iran, quand même très prudente, elle préfère mettre en avant ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire ces gens qui luttent pour elle, le Hamas, le Hezbollah.
Fait souvent la guerre par procuration.
Voilà, les Yéménites aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Tzahal, qui est quand même une armée extrêmement puissante, parce qu'aujourd'hui, elle mène 5 ou 6 ou 7 fronts, je ne sais plus, je les avais comptés, je m'en souviens plus de fronts. Il y a des fronts un peu partout ouverts aujourd'hui.
Ah, bien sûr, et c'est pas fini en plus, on a l'impression.
Et c'est pas fini, et ils ont quand même réussi. Alors, ils ont failli cet octobre, l'armée a failli, le renseignement aussi, mais peut-être que M. Netanyahou, qui avait dégarni le front pour aider ses petits camarades ultra-religieux du côté de la Cisjordanie, y est pour beaucoup. Pour autant, c'est quand même une armée extrêmement puissante qui montre ce dont elle est capable. Les États arabes autour, on a un peu quand même l'impression qu'ils se désintéressent du problème. Où va-t-on? Bien, on ne sait pas. Si on va à la confrontation avec l'Iran, ça pourrait effectivement très mal se terminer.
Ah oui, on est à une époque, on disait on danse sur un volcan.
Oui, mais pendant qu'on danse sur ce volcan, on ne danse pas sur l'autre qui est celui de l'Ukraine.
Oui, oui.
Ce n'est pas qu'il soit plus proche de nous et qu'il faille, mais nous sommes quand même. L'Ukraine est notre dernier rempart. Après, on est en ligne, ou certains pays européens, à tout le moins, sont en ligne directe.
Oui, ils le savent d'ailleurs.
Et là aussi, on a un Poutine qui ne peut pas reculer, parce que j'imagine. Poutine n'est pas seul. Il a pas d'opposant, véritablement, mais il a des gens autour de lui qui sont encore plus durs que lui et plus jusqu'au boutiste que lui. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il reculait, sa présidence et peut-être même sa vie seraient menacées.
Ah, c'est clair qu'aujourd'hui, alors, je suis de très près au quotidien,
oui,
quasiment,
nous savons,
ce qui se passe là-bas. Et il est à peu près clair que le jour où Poutine baissera la garde, il la baissera définitivement pour ce qui est de son avenir à lui. Voilà. Il règne par la terreur et lui-même peut être l'objet de cette logique-là. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai la seule perspective qui pourrait y avoir. On est sorti bien. On va en arriver à regretter le monde bipolaire de la guerre froide qui faisait que les grands frères d'un côté ou de l'autre arrivaient à calmer les petits frères et ce faisant, réguler les conflits à une échelle qui était une échelle soutenable sous peine de se vitrifier mutuellement. Bon, on va arriver à regretter ce genre de choses-là. Je fais un peu d'humour noir. On n'est plus dans le monde bipolaire, on est dans le monde multipolaire. Et sur Israël, la seule solution viendrait d'Israël, me semble-t-il. C'est de la capacité que pourrait avoir la société israélienne à s'opposer à un suicide, parce que c'est du suicide. Je veux dire, Israël est en train, de mon point de vue, de se suicider.
Oui,
se suicider.
Elle a une image à l'international politiquement, qui se dégrade. Elle est grillée.
De runner, l'image que pouvait avoir effectivement l'État hébreu est à terre.
Il se comporte comme un pays arabe basique aujourd'hui.
Il se comporte comme un pays impérialiste, extrêmement violent et absolument sans aucune éthique et aucune morale. Voilà. Comme peut se comporter effectivement la Russie quand elle est... Voilà. Sauf que la société israélienne elle-même est paralysée par la trouille. Et je crois qu'on est là aussi dans une impasse. Je vois mal les États-Unis aller à l'envers de la politique extrêmement coupable, de mon point de vue, qu'a pu avoir Biden, de complaisance vis-à-vis d'Israël. Pour des raisons idéologico-électoralistes.
Il y a quand même beaucoup de démocrates qui commencent à s'inquiéter.
Mais, voilà, mais on est dans une période d'élection, donc les jeux d'équilibre sont complètement brouillés là aussi. Mais oui, il y a des démocrates effectivement qui commencent à se rendre compte.
On faisait un parallèle Netanyahou-Poutine, mais tous les deux ont très envie de voir M. Trump arriver aux manettes. C'est quand même aussi quelque chose qui les rapproche.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est dans des modèles illibéraux qui font que les gens se retrouvent. Voilà. On est ici en France, on est aussi traversé par ça, par ce qui est en train de se passer. Moi, je suis frappé par contrairement à ce que raconte le gouvernement et le ministre de l'Intérieur. Je trouve qu'on est quand même le pays dans lequel nous avons, je crois, la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté maghrébine d'Europe aussi. Et nous sommes un pays dans lequel, malgré ce que j'entends autour de moi de gens qui... pour être allé en Israël avec des amis qui étaient des amis très, très fins connaisseurs de la région, et il disait c'est une situation qui rend fou. Effectivement, les gens réfléchissent peu tellement on est pris dans des choses qui sont
quand
des choses...
Quand on va en Israël, l'ambiance est extrêmement pesante. Elle l'a toujours été. On sent que c'est un pays qui a le dos, non pas au mur, des lamentations, mais à la mer.
C'est pour ça que je disais les Israéliens ont peur. Voilà,
aujourd'hui, ils ont quand même bien renversé le paradigme.
Voilà.
Le temps est arrivé de nos dernières rubriques, les brèves. Eh bien, écoutez, je vais commencer. On reste de l'autre côté de la Méditerranée, on reste en Tunisie. Hein, vous voyez, en Tunisie, c'est bien prison pour tout le monde. C'est très simple pour les opposants, les plus sérieux, même pour les autres d'ailleurs. Les avocats, les syndicalistes, les journalistes, les activistes, les comploteurs, les corrompus, tout le monde y passe. Hein, c'est facile, monsieur.
En Tunisie, on ne fait pas de détails.
Non, monsieur Saïed, qui a 66 ans, on se présente pour un second mandat et il a eu 90% des voix. Bon, c'est vrai qu'il semblerait qu'il n'y ait que 29% que tu allais voter. Ouais. Bon,
ça s'appelle un score à la Corée.
À la Corée. Voilà, deux seconds couteaux avaient été admis à concourir. Les autres ont renoncé, soit parce qu'ils étaient en prison, soit parce que... Bon. Alors, qu'est-ce qui fait, M. Saïed ? Ben, restriction des libertés, croissance en berne, chômage au plus haut, alimentant tous les départs possibles vers l'Europe. L'Europe qui, justement, tâche de mettre à pied avec ce M. Saïed
un partenariat pour bloquer les migrants. Et on n'a pas beaucoup entendu sur cette élection de M. Saïed. Ils sont restés d'une pudeur de violette, les dirigeants européens.
Ce sont des gens qui sont extrêmement fragiles.
Absolument. Une brève, Jean-François ?
Une brève, ouais. Elle s'appelait Atik Radio. Ça faisait 30 ans qu'elle émettait depuis Istanbul. Elle vient d'être fermée. Alors, Atik Radio, ça veut dire radio ouverte en turc. Je parle turc couramment, bien sûr. Voilà. Elles viennent d'être fermées d'autorité par le grand démocrate qui dirige la Turquie, parce qu'elle a parlé de génocide arménien.
Et c'est surtout un de ses invités qui a parlé.
Voilà, elle a laissé parler. Elle a laissé parler.
Elle n'a pas repris.
Elle a laissé parler de génocide arménien dans une de ses émissions, et elle a refusé de se suspendre elle-même de 5 jours d'émission, et donc elle a été fermée. En tant que radio, je pense qu'il faut exprimer notre solidarité avec nos amis turcs.
Bien que vous l'ayez fait, parce que je voulais le dire aussi en finale et dire qu'on pensait à eux et qu'on les soutenait. Alors ils ont introduit un recours, mais bon, la justice turque n'est peut-être pas une montre suisse. Nous allons voir. Ouais. Nous allons voir. Alors ça va mieux. Moi, je l'ai trouvé dans ce monde agité. Je l'ai trouvé. Hein. On va voir ce qu'il va donner. Mais vous savez, l'Institut Montaigne, qui est un institut quand même libéral, ben lui, il a fait toute une étude sur la fracture alimentaire qu'il devrait publier alors le 16 octobre. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, on ne doit pas en être loin.
On est le 17 même.
Oui, donc il va falloir le lire avec intérêt. Et l'Institut Montaigne propose de taxer les produits sucrés. Alors, vous imaginez le tollé du lobby agroalimentaire. Il y a un excellent article dans le cadre enchaîné de Jean-François Julliard là-dessus. Et l'Institut Montaigne, ben, ils disent on a quand même tout eu. Hein, intervention, pression, tentative de réécriture, des experts de laboratoire qui sont intervenus, alors laboratoire bien sûr tout à fait dirigé, et le document dresse d'entrée, paraît-il, hein, c'est le canard qui le dit, mais je veux bien le croire, d'autant plus qu'on va pouvoir le vérifier, un constat alarmant, augmentation des pathologies dues à l'alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, un désastre. L'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète responsables directement ou non de 40% des décès en France, et le surcoût pour la Sécu chiffré par une agence de l'ONU à 105 milliards d'euros par an, excusez du peu. Et je vous renvoie également, il y a un très très bel documentaire sur Arte qui est toujours en ligne, qui s'appelle « Monde obèse ». Regardez-le, quand vous aurez fini de le regarder, ben vous aurez un peu compris comment marche le monde, Jean-François. Alors, on attend ce rapport parce que c'est quand même... Montaigne ne sont pas des rouges hein, chez Montaigne.
Ce ne sont pas des islamo-gauchistes.
Voilà. Donc s'ils ont écrit ça, ça va être passionnant à lire. Et si eux l'ont écrit, c'est que vraiment, il y a le feu à la maison, mais ça on le savait déjà.
Alors moi ça va mieux, je vous en fais deux pour le prix d'un, vous voyez, c'est
fabuleux.
C'est fabuleux en ce moment, vu le contexte. D'abord, enfin c'est ouvert, ça va mieux du côté des assistants parlementaires, c'est ouvert le procès des assistants parlementaires de ex-Front National, Rassemblement National, et on va peut-être juger des pratiques qui sont des pratiques particulièrement crapuleuses de ces gens-là, hein, qui, tout en prônant le nationalisme, pompe outrageusement les fonds qui sont les fonds européens. Et puis un petit ça va mieux, un petit coucou au passage. Je m'inquiétais pour Olivier Véran, notre ministre de la Santé, notre ex-ministre de la Santé, démissionnaire. Ça va mieux pour lui. Il vient d'intégrer le conseil d'administration de Lunettes pour tous, qui, j'imagine, lui assureront quelques mensualités.
Ah oui, vraisemblablement. Il aura ce qu'on appelle des jetons de présence.
Exactement.
On est content pour lui. Allez, dernière rubrique, le conseil culturel. Ben, moi, je vais vous renvoyer une nouvelle fois vers Arte. Un docu d'une dame bien connue et qui fait un super boulot, qui s'appelle Marie-Monique Robin. Ça ne vous a pas échappé. Ça s'appelle « Vive les microbes ». Donc vous avez ce documentaire, mais vous avez aussi le livre aux éditions Arte, 272 pages, 20,50 €, je vous dis tout. Allez le voir, et c'est là que l'on apprend que l'asthme et l'allergie sont devenus aujourd'hui un vrai problème de santé publique. L'asthme invalidant, incurable, est aussi un gouffre pour la sécu. Il n'y a pas que le sucre et les nourritures peu adaptées. Les allergies, ben, c'est souvent un calvaire. Alors, 5% de la population a été concernée il y a 50 ans, 5%. Aujourd'hui, il y en a 7 fois plus. Donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre monde est trop aseptisé et que de plus en plus d'enfants vivent en ville, loin du végétal, des animaux, de la terre, de la poussière. Et comme tout se joue dans les trois premières années, vers l'âge de 3 ans, alors je ne sais pas où vous étiez, Jean-François, à l'âge de 3 ans, mais est-ce que votre microbiote intestinal que l'on conserve après toute sa vie a vraiment été en contact avec plein de petits microbes qui vous auraient permis de mieux vivre aujourd'hui ? C'est la question qui est posée.
J'en suis sûr.
Vous en êtes sûr, donc c'est bien. Donc il faut que notre système immunitaire s'entraîne et aujourd'hui les nôtres ne savent pas distinguer les agents vraiment infectieux des autres, et dès que l'organisme rencontre un microbe inconnu, même bénin, ça peut être une graine de pollen, un poil de chat, et bien voilà, il réagit au quart de tour, en fait il surréagit, et c'est l'allergie qui cause beaucoup de problèmes et surtout de souffrances à certains, et qui coûte très cher à la sécu. Voilà, vive les microbes, et sur Arte, et le livre éponyme de Marie-Monique Robin.
Alors, moi, les conseils culturels, il y en a un qui est à ligne droite des échanges qu'on vient d'avoir, de discussions. C'est un documentaire à voir sur la chaîne parlementaire qui s'appelle « Résister pour la paix ». C'est un documentaire, donc, qui a été fait en Israël et en Palestine par des documentaristes qui sont allés voir le mouvement pour la paix, hein, la paix maintenant, qui sont certainement les citoyennes et les citoyens israéliens et palestiniens qui sont l'espoir de ce qui peut arriver dans les prochaines, peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années. Hein. Leur dernier documentaire daté du 6 octobre, il y a un an. C'est pour, hein, ils y sont revenus un an après. Voilà. Et puis, plus culturel, pour les Toulousains, on est en plein dans le festival Origine Contrôlée, donc, qui est le festival dans lequel on vient parler de ce que la migration a pu amener comme apport culturel à notre pays. Donc, les Toulousains, n'hésitez pas, ce soir, le 17, puisqu'on est le 17, il y a Patrick Noviello qui passe à l'espace diversité pour
Patrick se produire. Patrick, c'est moi l'Italien.
C'est moi l'Italien ce voilà. Soir qui passe dans le festival. Et il y a d'autres.
Patrick Noviello qui a été mon complice à ce micro et même à un autre micro où nous produisions une émission avec deux autres complices italiens qui s'appelaient Ciao Italia, et nous parlions de tout ce qui se passait en Italie autrefois et même maintenant, et Patrick avait une rubrique là-dedans. Donc allez voir Patrick Noviello.
Voilà.
C'est un très beau spectacle.
Spécial copinage.
Voilà, spécial copinage, mais je le fais sans arrière-pensée, parce qu'il a du talent, et vous le pouvez l'apprécier aussi sur FR3, puisqu'il est...
Il est responsable du service politique.
Voilà, donc suivez Patrick Noviello.
J'y vais ce soir, je vous raconterai la prochaine fois.
Voilà, merci. Ben, c'était Ça va mieux, une émission de Jean-François Mignard et de Jacques Lavergne. Au bouton et à la console, nous avions Grégoire Nachez, que l'on remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie, bien sûr. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle soirée, belle journée à toutes et à tous.
Au revoir.